Voltaire, Aventure de la mémoire, 1775. Le genre humain pensant, c'est-à-dire la 100 000e partie du genre humain tout au plus, avait cru longtemps, ou du moins avait souvent répété, que nous n'avions d'idée que par nos sens, et que la mémoire est le seul instrument par lequel nous puissions joindre deux idées et deux mots ensemble. C'est pourquoi Jupiter, représentant la nature, fut amoureux de Mnémosyne, déesse de la mémoire, dès le premier moment qu'il la vit, et de ce mariage naquirent les 9 muses, qui furent les inventrices de tous les arts. Ce dogme sur lequel sont fondées toutes nos connaissances fut reçu universellement, et même la non-sobre l'embrassa dès qu'elle fut née, quoique ce fût une vérité. Quelque temps après vint un argumentateur, moitié jeu maître, moitié chimérique, lequel argumenta contre les 5 sens et contre la mémoire, et dit au petit nombre du genre humain pensant, « Vous vous êtes trompé jusqu'à présent, car vos sens sont inutiles, car les innés sont innés chez vous avant qu'aucun de vos sens pût agir, car vous aviez toutes les notions nécessaires lorsque vous vînes au monde. » Vous saviez tout sans jamais avoir rien senti. Toutes vos idées nées avec vous étaient présentes à votre intelligence, nommée âme, sans le secours de la mémoire. Cette mémoire n'est bonne à rien. La non-sobre, anagramme de la Sorbonne, condamna cette proposition non parce qu'elle était ridicule, mais parce qu'elle était nouvelle. Cependant, lorsqu'ensuite un Anglais se fut mis à prouver, et même longuement, qu'il n'y avait point d'idée innée, que rien n'était plus nécessaire que les 5 sens, que la mémoire servait beaucoup à retenir les choses reçues par les 5 sens, elle condamna ses propres sentiments parce qu'ils étaient devenus ceux d'un Anglais. En conséquence, elle ordonna au genre humain de croire désormais aux idées innées et de ne plus croire aux 5 sens et à la mémoire. Le genre humain, au lieu d'obéir, se moqua de la non-sobre, laquelle se mit en telle colère qu'elle voulut faire brûler un philosophe, car ce philosophe avait dit qu'il est impossible d'avoir une idée complète d'un fromage, à moins d'en avoir vu et d'en avoir mangé. Et même le scélérat osa avancer que les hommes et les femmes n'auraient jamais pu travailler une tapisserie s'ils n'avaient pas eu des aiguilles et des doigts pour les enfiler. Les Liolis Theolis, les disciples de Loyola, se joignirent à la non-sobre pour la première fois de leur vie. Et les Séjanistes, anagramme de janséniste, ennemi mortel des Liolis Theolis, se réunirent pour un moment à eux. Ils appelèrent à leur secours les anciens dicastériques, qui étaient de grands philosophes, et tous ensemble, avant de mourir, proscrivirent la mémoire, les 5 sens, et l'auteur qui avait dit du bien de ces 10 choses. Un cheval se trouva présent au jugement que prononcèrent ces messieurs, quoiqu'il ne fût pas de la même espèce et qu'il y eût entre lui et eux plusieurs différences, comme celle de la taille, de la voix, de l'égalité des crins et des oreilles. Ce cheval, dis-je, qui avait du sens aussi bien que des sens, en parla un jour à Pégase, dans mon écurie, et Pégase alla raconter aux muses cette histoire avec sa vivacité ordinaire. Les muses, qui depuis 100 ans avaient singulièrement favorisé le pays, longtemps barbare, où cette scène se passait, furent extrêmement scandalisées. Elles aimaient tendrement Mémoire ou Mnémosyne, leur mère, à laquelle ces 9 filles sont redevables de tout ce qu'elles savent. L'ingratitude des hommes les irrita. Elles ne firent point de satire contre les anciens dicastérisques, les liolistéois, les séjanistes et la non-sobre, parce que les satires ne corrigent personne, irritent les sots et les rendent encore plus méchants. Elles imaginèrent un moyen de les éclairer en les punissant. Les hommes avaient blasphémé la mémoire. Les muses leur ôtèrent ce don des dieux, afin qu'ils apprissent une bonne fois ce qu'on en est sans son secours. Il arriva donc qu'au milieu d'une belle nuit, tous les cerveaux s'appesantirent, de façon que le lendemain matin, tout le monde se réveilla sans avoir le moindre souvenir du passé. Quelques dicastériques, couchés avec leurs femmes, voulurent s'approcher d'elles par un reste d'instinct indépendant de la mémoire. Les femmes, qui n'ont eu que très rarement l'instinct d'embrasser leur mari, rejetèrent leurs caresses dégoûtantes avec aigreur. Les maris se fâchèrent, les femmes crièrent, et la plupart des ménages en vinrent au coup. Messieurs, trouvant un bonnet carré, s'en servirent pour certains besoins que ni la mémoire ni le bon sens ne soulagent. Mesdames employèrent les pots de leur toilette aux mêmes usages. Les domestiques, ne se souvenant plus du marché qu'ils avaient fait avec leur maître, entrèrent dans leur chambre sans savoir où ils étaient. Mais comme l'homme est curieux, ils ouvrirent tous les tiroirs. Et comme l'homme aime naturellement l'éclat de l'argent et de l'or, sans avoir pour cela besoin de mémoire, ils prirent tout ce qu'ils trouvèrent sous la main. Les maîtres voulurent crier aux voleurs, mais l'idée de voleur étant sortie de leur cerveau, le mot ne put arriver sur leur langue. Chacun, ayant oublié son idiome, articulait des sons informes. Oh, c'était bien pis qu'à Babel, où chacun inventait sur le champ une langue nouvelle. Le sentiment inné dans le sens des jeunes valets agit si puissamment que ces insolents se jetèrent étourdiment sur les premières femmes ou filles qu'ils trouvèrent, soit cabaretières, soit présidentes. Et celles-ci, ne se souvenant plus des leçons de pudeur, les laissèrent faire en toute liberté. Il fallait dîner. Ah, mais personne ne savait plus comment il fallait s'y prendre. Personne n'avait été au marché, ni pour vendre, ni pour acheter. Les domestiques avaient pris les habits des maîtres, et les maîtres ceux des domestiques. Tout le monde se regardait avec des yeux hébétés. Ce qui avait le plus de génie pour se procurer le nécessaire, et c'étaient les gens du peuple, trouvèrent un peu à vivre, les autres manquèrent de tout. Le premier président, l'archevêque, allait tout nu, et leurs palefreniers étaient les uns en robe rouge, les autres en dalmatique. Tout était confondu, et tout allait périr de misère et de faim, faute de s'entendre. Au bout de quelques jours, les muses eurent pitié de cette pauvre race. Elles sont bonnes, quoiqu'elles fassent sentir quelquefois leur colère aux méchants. Elles supplièrent donc leur mère de rendre à ces blasphémateurs la mémoire qu'elle leur avait ôtée. Mnémosyne descendit au séjour des contraires, dans lesquels on l'avait insultée et avec tant de témérité, et leur parla en ces mots. « Imbécile, je vous pardonne, mais ressouvenez-vous que sans les sens, il n'y a point de mémoire, et que sans la mémoire, il n'y a point d'esprit. » Les dicastérisques la remercièrent assez sèchement et arrêtèrent qu'on lui ferait les remontrances. Les séjanistes mirent toute cette aventure dans leur gazette. On s'aperçut qu'il n'était pas encore guéri. Les Liolistois en firent une intrigue de cour. Maître Coget, tout ébahi de l'aventure, et n'y entendant rien, dit à ses écoliers de cinquième ce bel axiome. Non magis mugis, quam omnibus infensa, est ista quam vocatur memoria. Celle qu'on nomme aujourd'hui philosophie n'est pas plus ennemie de Dieu que des rois.